sur RFI.
Merci d'écouter RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. 11h30 en temps universel, 2h de plus à Paris. Et dans une demi-heure, ce sera le journal, toute l'actualité internationale avec vous, Olivier Sherman. Et vous nous parlerez de la Corée du Sud. On connaît le résultat de l'élection présidentielle.
Oui, le démocrate Lee Jae-myung a remporté cette élection. Le scrutin vient de se terminer et met fin à 6 mois de chaos politique. Nous retrouverons notre correspondant à Séoul pour les tout premiers résultats officiels et les premières déclarations. Nous irons au Proche-Orient pour les suites des attaques israéliennes très meurtrières contre des civils qui se rendaient dans des centres distribution d'aide humanitaire. 3 en 3 jours. L'armée reconnaît avoir tiré contre des suspects suite à un mouvement de foule. L'ONU réclame une enquête indépendante.
Dans votre journal, Olivier, nous entendrons la mère d'un britannico-égyptien retenu en Égypte depuis 6 ans. Elle est en grève de la faim depuis 247 jours, hospitalisée. Elle exige que le gouvernement britannique fasse preuve de fermeté vis-à-vis du Caire pour faire libérer son fils.
Et puis nous verrons que les manifestations et les soupçons de corruption ont eu raison du Premier ministre mongol. Il perd un vote de confiance et démissionne. Enfin de la musique pour conclure avec le dernier album, le 28e de Julien Clerc, en 60 ans de carrière.
À tout à l'heure.
RFI, l'Europe à midi.
L'actualité en Europe durant une demi-heure. Il menaçait depuis plusieurs semaines, et bien il est passé à l'acte. Le leader d'extrême droite, Geert Wilders, quitte la coalition au pouvoir aux Pays-Bas et en désertant avec son parti, le PVV, il fait chuter le gouvernement. Julien Chavannes, la coalition tombe à cause d'un désaccord sur la politique d'asile.
Geert Wilders avait promis la politique la plus stricte jamais mise en place. Il veut tout simplement fermer les frontières aux demandeurs d'asile. Mais le leader nationaliste et xénophobe trouvait que ses partenaires de la coalition au pouvoir n'allaient pas assez loin pour restreindre l'asile aux Pays-Bas. Alors ce matin, il annonce sur X le départ du PVV, du gouvernement, avant de prendre la parole devant la presse.
Je ne peux donc rien faire d'autre que de dire que nous retirons notre soutien à ce gouvernement. Je viens également d'informer le Premier ministre que je retirerai les ministres du PVV du gouvernement et que nous ne pouvons plus assumer la responsabilité de tout cela. J'ai signé pour une politique d'asile la plus stricte et non pour la chute des Pays-Bas. Notre responsabilité envers le gouvernement prend donc fin maintenant.
De nouvelles élections vont donc être convoquées et c'était peut-être ça le véritable objectif de Geert Wilders et de sa posture jusqu'au boutiste. Il a vu les autres formations le rattraper dans les sondages et il espère toujours être Premier ministre, mais sans aucune garantie. Le prochain scrutin s'annonce très serré et à droite, on dénonce une décision irresponsable. Certains craignent déjà que ça n'ouvre la voie au parti de gauche.
L'actualité en Europe, c'est aussi la présentation ce matin d'un état des lieux des investissements dits climat dans l'Union européenne. C'est l'institut de recherche I4C qui se charge des calculs. Un chiffre, Pauline Glaise, 498 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais pas assez, loin de là, pour permettre aux 27 d'atteindre leurs objectifs climatiques et industriels d'ici à 2030. Combien manque-t-il aujourd'hui pour que les comptes soient bons ?
Eh bien, il manque 344 milliards d'euros d'investissements qui ont manqué à l'appel en 2023 en moyenne entre 2025 et 2030. Selon l'évaluation de l'Institut pour l'économie du climat, l'I4C, il aurait fallu environ 842 milliards d'euros d'investissements dans des domaines variés, les énergies propres, la rénovation des bâtiments ou encore dans les transports. Les investissements ont donc beau avoir encore progressé entre 2022 et 2023. Le compte n'est toujours pas bon. Si l'on voit le verre à moitié plein, ces dépenses ont continué à progresser. Si l'on voit le verre à moitié vide, eh bien cette progression de 1,5% marque un ralentissement de la croissance par rapport aux années précédentes. Et les premières estimations pour 2024 tendent à confirmer ce ralentissement. À noter que dans cet état des investissements climat de l'UE, ceux réalisés dans le nucléaire n'ont pas été pris en compte. C'est pourtant une énergie décarbonée, mais face aux autres enjeux environnementaux et de sûreté, le débat est toujours brûlant au sein des 27.
Alors, dans le détail, il y a des différences en fonction des secteurs.
Trois secteurs s'en sortent bien. En fait, les investissements ont dépassé les objectifs de l'année 2023 dans certains d'entre eux. C'est le cas de l'énergie photovoltaïque ou encore du secteur des clean tech, les technologies propres en bon français. C'est lié notamment à la mise en place d'usines de batteries électriques, secteur poussé par la Commission européenne. Au contraire, les dépenses dans l'éolien ont atteint moins du tiers de ce qu'elles auraient dû être pour permettre d'atteindre l'objectif de 2030 de l'UE. Et ce n'est guère plus important pour les rénovations énergétiques des bâtiments. Comme je vous le disais, Anne, les premières estimations de 2024 font craindre un ralentissement avec certains secteurs particulièrement touchés. Les dépenses dans la rénovation énergétique des bâtiments auraient baissé de plus de 6% l'an dernier. La chute serait drastique pour les pompes à chaleur. Le secteur du bâtiment est pourtant essentiel. Il représente 36% des émissions carbone européennes.
Et le contexte économique risque de ne pas arranger les choses.
L'IFORCI souligne que plusieurs États membres sont sous pression de Bruxelles pour réduire leurs dépenses publiques. Ce que l'on appelle la facilité pour la reprise et la résilience, l'un des piliers du programme de relance post-Covid, va s'achever en fin d'année prochaine. Puis en 2028, les États qui en ont bénéficié devront commencer à rembourser les prêts accordés dans le cadre de Next Generation EU. Cela veut donc dire encore plus de pression budgétaire. L'Europe peut donc faire mieux. Teresa Ribera, la vice-présidente de la Commission européenne en charge de la transition propre, juste et compétitive, l'a reconnue.
On ne peut pas dire que vos données soient fantastiques. J'aimerais voir d'autres résultats, mais c'est important d'avoir des données réelles. Honnêtement, je pense que nous pouvons faire mieux. Et je pense que pour faire mieux, il faut que nous soyons convaincus qu'on peut faire mieux. La finance pourrait aider à améliorer la situation, mais nous devons fournir le bon contexte.
Quelles sont les recommandations?
L'IFORCI insiste sur l'importance d'un cadre d'investissement à long terme qui inclut l'ambition climatique, une stratégie de long terme qui permettrait aussi, selon le centre de recherche, de favoriser l'investissement privé, et ce grâce à une plus grande visibilité.
Pauline Glaise. Notre coup d'œil quotidien à la presse européenne qui revient sur les discussions d'hier entre l'Ukraine et la Russie. Un échec selon la Repubblica. Même tonalité pour Novaya Gazeta. Ce qui se passe pour la deuxième fois à Istanbul ne peut être qualifié de négociation classique. Jusqu'à présent, il s'agit d'un constat d'impasse. Le journal dresse un constat sévère de la diplomatie russe. Les causes profondes du conflit, comme le dit Moscou, les causes profondes sont insolubles, estime le média indépendant russe, parce que l'ordre mondial existe, tout simplement. Une heure de discussion seulement et tout le monde est rentré chez soi, pointe Novaya Gazeta, tout comme le média Okao Press en Pologne. Après avoir fait traîner la publication de son fameux mémorandum, eh bien Moscou l'a montré, écrit le journal. C'est une demande de capitulation. Toujours en Pologne, après la victoire du candidat nationaliste et populiste Karol Nawrocki à la présidentielle dimanche, le journal conservateur Rzeczpospolita se fait l'écho de l'appel lancé par le très conservateur lui aussi, président du PiS. Jarosław Kaczyński estime que le premier ministre pro-européen Donald Tusk doit partir. Il demande la formation d'un gouvernement technique en attendant des législatives anticipées. Et puis la presse italienne fait ses gros titres sur la visite d'Emmanuel Macron à Rome. Le président français doit être reçu tout à l'heure par Giorgia Meloni. Tous les deux doivent parler de l'Ukraine, mais aussi de la guerre à Gaza, nous dit La Stampa, en soulignant à quel point les positions des deux dirigeants sont éloignées. Emmanuel Macron doit réaffirmer l'importance de la reconnaissance d'un État de Palestine, écrit le quotidien italien, alors que la première ministre Meloni y est opposée. Nous vous emmenons maintenant au Groenland. On a beaucoup parlé ici des ambitions de Donald Trump sur ce territoire autonome du Danemark, immense île de l'océan Arctique qui vit essentiellement de la pêche. Et à quelques jours de la conférence internationale sur les océans, notre reporter Justine Fontaine est allée parler de l'avenir du secteur avec les pêcheurs groenlandais.
La pêche et l'industrie du poisson, c'est le premier employeur du Groenland, après l'État. Près de 5000 personnes en vivent, loin devant le tourisme. Un chiffre très important sur cette île qui est presque aussi grande que la République démocratique du Congo, mais où il y a seulement 57 000 habitants. Un peu plus loin, dans le port, on s'approche d'un plus grand bateau beige, une quinzaine de mètres de long. Ces hommes attendent de renouveler des autorisations pour repartir vers le nord, pêcher le crabe des neiges. Ils patientent au chaud dans la cabine du bateau, à l'abri du vent et de la fine neige de cette fin du mois d'avril. Peter, le doyen de l'équipe, nous reçoit.
My name is Peter Moller.
Je m'appelle Peter Moller, j'ai 67 ans.
I'm 67 now.
Comme beaucoup de gens ici, il a eu plusieurs vies, étudiant au Danemark, pêcheur au Canada.
They call me blue-eyed Eskimo.
Il m'appelait l'Eskimo aux yeux bleus.
Il est inuit, comme près de 90% des habitants du Groenland. Depuis une quinzaine d'années, il travaille à la mine l'été, il manie les explosifs, et il redevient pêcheur l'hiver sur la côte ouest du Groenland. Il nous fait visiter le navire.
Donc on descend au fond du bateau, et là c'est l'espace de vie.
Voilà les chambres. Trois ici, Trois de l'autre côté, ma cabine est là.
Combien de personnes travaillent sur le bateau?
Six personnes. Avec moi, ça fait sept.
On quitte la salle des moteurs et on s'installe en haut, dans la cabine, pendant qu'un de ses collègues se repose sur une banquette.
My family are originally from a fishery.
Je viens d'une famille de pêcheurs. Mon père et mes oncles étaient pêcheurs. Je les ai suivis en mer depuis que je suis enfant.
I have followed since I'm kids.
Dans ma vie, j'ai pêché un peu de tout. Des crevettes, des ombles chevaliers, du flétan du Groenland et maintenant du crabe des neiges. Si on a de la chance, on part en mer un seul jour et c'est suffisant. Une petite pêche, c'est 2 tonnes de crabe. Une bonne pêche, c'est jusqu'à 17 tonnes.
Ça fait combien d'argent ?
That's a half million.
Un demi-million de couronnes danoises, plus de 70 000 dollars. La moitié va au propriétaire du bateau. Nous, les pêcheurs, on se partage l'autre moitié. Dans les périodes fastes, on gagne plus qu'un PDG.
Extrait du grand reportage de Justine Fontaine et Patrick Abrahamson à écouter ce soir à 19h40, temps universel.
RFI, l'Europe à midi.
Il est l'homme le plus recherché des Pays-Bas. Le trafiquant de drogue surnommé Bol Jos ou Jos le Joufflu est toujours en fuite, on le dit en Sierra Leone, où il a pu être identifié sur 2 vidéos depuis le début de l'année. En cavale pour échapper à la prison, Bol Jos a été condamné par contumace à 24 ans de détention par la justice de son pays et 10 ans en Belgique. Et en attendant de mettre la main sur lui, Pierre Benazet, le parquet néerlandais a décidé de se rémunérer sur la fortune qu'il a amassée grâce au trafic de cocaïne et va saisir les propriétés du criminel.
De son vrai nom, Jos Leydekkers, le trafiquant de drogue néerlandais avait amassé de nombreux biens de luxe, des Bentley, de la maroquinerie française, des montres suisses, dont certaines à 1 million d'euros la pièce, mais surtout de l'or. Grâce à l'interception des communications cryptées de la messagerie Sky ICC, le parquet a pu retracer de nombreuses transactions, comme par exemple avec le bijoutier anversois qui lui a vendu les montres. Et il a acheté au total près d'une tonne d'or, pour une valeur de 47 millions d'euros à l'époque, qui selon le parquet n'a jamais été revendue. Pour le ministère public, ceci vaudrait aujourd'hui 91 millions d'euros. Le plus important est la traçabilité des avoirs qui permettent aussi de remonter jusqu'à des appartements à Dubaï ou à un hôtel dans la station balnéaire de Bodrum en Turquie, pays que Jos Leydekkers a fui après que des membres de sa famille y ont été arrêtés. Si le parquet réalise toutes ces saisies, elles permettront au moins de payer la prime de 200 000 euros que les autorités néerlandaises offrent pour toute information menant à l'arrestation de Jos le Joufflu. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Dans l'actualité également, les efforts des Européens pour relancer la conquête spatiale. Reportage sur l'un des 2 sites de lancement du continent, en Écosse, site sur lequel misent les Britanniques et les pays européens. Thomas Harms.
Sur la pointe septentrionale des Shetland, les poneys et les moutons ne sont plus seuls. Le Royaume-Uni a autorisé l'installation d'un pas de lancement de roquette spatiale, le Spaceport Saxavord. Un premier tir a eu lieu l'été dernier, mais s'est soldé par l'explosion de la fusée. Mais qu'à cela ne tienne, sur place, l'installation du spatioport génère de l'espoir. Anna travaille au salon de thé de Harrodswick, le commerce le plus au nord du Royaume-Uni et le dernier avant le pas de tir.
Je pense que c'est une bonne chose pour la région, ça va créer des emplois. Ce sera aussi une super expérience pour des voyages éducatifs pour les enfants à 2 pas de chez eux. Et ça pourrait amener un peu plus de tourisme, ce qui serait bénéfique. Sur une île comme celle-ci, on est toujours un peu suspicieux vis-à-vis de la nouveauté, mais il faut juste s'habituer à ce qui est nouveau.
Autour du port spatial, autorisé à opérer depuis décembre 2023 par les autorités britanniques, l'activité tourne encore au ralenti. Ce n'est pas toute l'émulation que l'on voit sur d'autres sites de lancement dans le monde, comme à Boca Chica au Texas, d'où est tiré SpaceX par exemple. Mais cet été, un nouveau tir-test est prévu et ensuite les décollages devraient se multiplier. Lynn Thompson voit depuis sa fenêtre l'ancien radar de la Royal Air Force datant de la Seconde Guerre mondiale qui a laissé la place au spatioport.
Where the rocket is launched from La fusée est lancée depuis l'autre côté de cette colline, là-bas. Vous savez, c'est comme beaucoup de choses. On le met en avant comme un projet qui va rapporter beaucoup d'emplois. Et ils ont recruté plein de gens du coin pour construire les routes, les structures et les bâtiments. Mais les ingénieurs, ceux qui vont gérer les lancements à proprement parler, ils viendront juste de manière ponctuelle. Et ce ne sera pas des locaux.
Aujourd'hui, le principal lanceur de fusées en Écosse est une entreprise allemande. Sur les 30 tirs prévus chaque année à Saxavord, Rocket Factory Augsburg, RFA, prévoit d'en faire 10, soit à peu près un par mois. Et pour RFA, le choix des Shetland est logique. Jonas Kellner est chargé du marketing pour la firme allemande.
Le spatioport Saxavord se trouve tout au nord des Shetland et c'est l'endroit parfait pour lancer des satellites sur des orbites polaires. L'avantage de ces orbites polaires, c'est que dans un laps de temps assez court, le satellite peut survoler n'importe quel endroit du globe, ce qui est très utile pour l'observation terrestre. Par exemple, quand on veut prendre des photos pour surveiller le changement climatique, des projets de construction ou l'analyse de systèmes de transport. Pour tout ça, une orbite polaire, c'est très important. Et en ce sens, Saxavord est extrêmement bien placé.
Quand on pense conquête spatiale européenne, on pense automatiquement à Kourou, en Guyane. Mais les entrepreneurs spatiaux européens affirment qu'il n'y a pas de concurrence entre les sites de lancement, entre Kourou, les Shetland et même avec les autres ports spatiaux plus ou moins actifs, en Suède et en Norvège. Jonas Kellner.
Non, pour nous, il n'y a pas de concurrence. Kourou est le site institutionnel de lancement de l'Agence spatiale européenne. Nous souhaitons utiliser d'abord les Shetland pour nos vols d'essai, mais aussi plus tard partir depuis la Guyane. Nous avons trouvé un accord avec Kourou pour envoyer des satellites en orbite plus haute ou pour des tirs de satellites d'agences européennes de recherche.
Car c'est en orbite que se jouent les communications du futur, la surveillance et de nombreuses avancées et découvertes scientifiques. C'est aussi un véritable marché. En 2024, il y a eu 261 lancements orbitaux et 10 000 satellites nous survolent déjà. Alors même si Saxavord n'est pas légalement dans l'UE, elle se trouve bien sur les terres européennes et sa croissance, selon le français Robin Hubert, en charge du développement du spatioport, permettrait à l'Europe de gagner son indépendance sur le terrain stratégique qu'est l'espace.
On réalise maintenant en Europe que on doit avoir une souveraineté stratégique et donc l'espace est une dimension non négligeable et qui devient de plus en plus importante. De ce fait, l'Europe a besoin d'accès à l'espace. Et donc, se reposer sur peu de centres spatiaux ou de sites de lancement, on va dire comme le centre guyanais ou Andøya, en Norvège, donc pour moi, en tant qu'Européen et comme citoyen, moi, je suis très content et très heureux de voir les projets se développer. Pour comparer, les États-Unis ont fait 150 lancements l'année dernière. L'Europe en était à 3 ou 4, qu'on a pas mal de retard à rattraper. On a un grand intérêt à travailler ensemble pour redonner la souveraineté spatiale.
Selon l'Agence spatiale européenne, cette émergence de ports spatiaux en Europe contribue à renforcer le poids et l'autonomie du continent, d'autant que l'engouement du secteur privé devrait permettre, selon l'Agence spatiale, émulation et innovation dans le secteur orbital.
Reportage de Thomas Harms à réécouter sur l'appli RFI Pure Radio à la page de l'émission Accent d'Europe. Vous pouvez aussi suivre l'émission en direct chaque soir à 17h10 temps universel. Le film de science-fiction Watch the Skies est sorti le mois dernier dans les salles de cinéma américaines dans un anonymat quasi total. Pourtant, cette production suédoise avait quelque chose d'inédit à proposer. Bonjour Loïc Piala.
Bonjour.
C'est le premier film entièrement doublé grâce à l'intelligence artificielle. La technologie permet d'adapter le mouvement des lèvres à la langue du doublage.
Oui, pas seulement. Un mot rapide sur le film. Déjà, il est sorti en 2022 en Suède. Il n'arrive que maintenant aux États-Unis. L'histoire suit une adolescente convaincue que son père a été enlevé par des extraterrestres. Écoutez cet extrait de la bande-annonce dans laquelle les personnages sont doublés donc en anglais.
Nobody knows what happened to my dad. I don't feel normal.
You mean it's not normal to think your father was kidnapped by aliens?
Alors, si vous maîtrisez la langue de Mark Twain et Tom Cruise, vous avez peut-être entendu un accent suédois, en l'occurrence, plus ou moins fort selon qui s'exprime. Eh bien, c'est normal, hein, parce que les acteurs ont eux-mêmes doublé leur voix en enregistrant leur texte en anglais. Et à l'image, les mouvements des lèvres ou les expressions du visage correspondent à ce qui est dit. Attention, c'est pas parfait encore, mais déjà beaucoup mieux que le doublage dont on a l'habitude. Parfois, le décalage est si fort qu'il gâche un peu le plaisir. Autre problème, les films dans lesquels la voix du doubleur n'a pas grand-chose à voir avec celle de l'acteur. Grâce à l'intelligence intelligence artificielle et un logiciel baptisé TrueSync, vraie synchronisation en français. Ce genre de désagrément pourrait disparaître pour de bon.
Et qui est derrière cette technologie ?
Une entreprise californienne, Flawless, son ambition avec TrueSync est, je cite, de donner aux cinéastes la liberté de préserver leur vision créative dans n'importe quel langage. C'est un réalisateur qui a cofondé Flawless en 2018. Il raconte, Scott Mann, c'est son nom, que les versions étrangères de son film Bus 657 avec Robert De Niro l'ont frustré. Les nuances des dialogues ou du jeu d'acteur se sont perdues en chemin. C'est en 2015 et il s'est servi de l'IA pour corriger la version allemande notamment. L'idée, c'est que la traduction des dialogues deviennent également une traduction visuelle avec l'aide de la technologie. Comment ça marche ? Eh bien, le visage des acteurs est transformé en modèle 3D. Les expressions du visage sont ensuite analysées pour les reproduire image par image en les adaptant au dialogue dans une autre langue.
Ça ressemble beaucoup au début d'une nouvelle ère pour le cinéma, non ?
Disons que cette technologie illustre l'un des nombreux bouleversements que nous réserve l'intelligence artificielle. Ce n'est que le début. Un agent expérimenté, cité dans la presse américaine, compare l'arrivée de l'IA dans le cinéma à l'apparition du son. On aura bientôt, peut-être, les premières stars générées par ordinateur. Le doublage, même s'il est réussi, entrave parfois la carrière des longs métrages d'un pays sur d'autres marchés. Des spectateurs ne supportent pas de voir un film doublé, ou alors d'autres détestent lire des sous-titres. Des distributeurs ne prennent pas le risque de les montré dans une salle de cinéma parfois, et dans ces cas-là, TrueSync peut jouer un grand rôle en élargissant le public potentiel d'un film. Hollywood sera peut-être moins tenté de faire des remakes de grands succès à l'étranger. Ces succès, doublés en anglais, auront pourquoi pas plus de chances d'attirer le public américain. La technologie permettrait de réduire aussi de 50% le budget doublage, plus besoin d'engager des voix dans tous les pays où un film sort. Ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les acteurs et les actrices qui vivent du doublage. Et justement, on se souvient que pendant la longue grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood en 2023, l'un des chevaux de bataille des syndicats, c'était de garantir une protection contre les conséquences de l'IA. Ils craignaient qu'un producteur demande à ChatGPT d'écrire un scénario sur une simple idée, quitte à demander ensuite à un vrai scénariste d'affiner le résultat. Meta et Blumhouse, spécialisés dans les films d'horreur à moyen budget, prévoient déjà de laisser des réalisateurs produire des courts-métrages en utilisant MovieGen, sorte de ChatGPT de l'image. Flawless assure qu'elle a des principes éthiques. Elle a collaboré avec la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs. La performance d'un acteur ne sera pas changée sans son accord, promet Flawless. La firme a de l'ambition dans la distribution en particulier. Elle a racheté les droits du Livre des Solutions, le film de Michel Gondry avec Pierre Ninet.
Loïc Piella, correspondant de RFI à Los Angeles. Merci. Je ne sais pas s'il vous arrive d'être exaspéré par la fréquence à laquelle sonne votre téléphone, par les appels incessants, mais si c'est le cas, un film vous donne une solution. Le Répondeur, c'est une comédie. Un écrivain à la recherche de calme paye un imitateur pour répondre à sa place, et pas seulement pour les appels professionnels, il répond aussi à sa famille. Cet imitateur est joué par Salif Cissé, dont c'est le premier grand rôle, et il en parle à Sophie Torlotin.
Salif Cissé, bonjour.
Bonjour.
Dans Le Répondeur, vous incarnez un comique de stand-up qui est recruté par un écrivain pour lui servir de double téléphonique et donc répondre à sa place aux appels de ses proches. C'est presque la définition du comédien.
C'est presque. Ben, ce comédien, il est aussi imitateur. En tout cas, c'est incarner des rôles. Et il s'y retrouve, même s'il le fait pour l'argent à la base. Il se dit, bon tiens, ça peut être un beau défi de tromper les proches de cet homme qu'il vient de rencontrer. Et puis, il se lance dedans, quoi.
On vous voit chanter aussi à la manière de Michel Berger. Bon, évidemment, là, vous prenez la voix de l'écrivain, c'est Denis Podalydès. Vous avez dû faire un gros travail pour imiter les voix. Comment ça s'est passé ?
Oui, bah c'était un énorme travail avec Michael Gregorio, notamment, qui a fait office de coach d'imitation. L'imitation, c'est un talent, c'est un don. On ne peut pas vraiment le transmettre. Mais au maximum de mes capacités, il m'a poussé pour essayer d'approcher ses voix au maximum. Et puis, les imitateurs sont arrivés dans un second temps. Ils ont travaillé à faire en sorte que nos voix se mélangent et pour donner un résultat bluffant. Mais il est clair que comme on ne savait pas à quel point on pouvait utiliser d'autres voix pour m'aider dans cette tâche, il fallait que j'imite, que je chante comme si c'était la version définitive, quoi. Donc c'était un très très gros travail.
Je m'en sors pas avec l'indemnité compensatoire que tu me verses.
Je te reprends dans 5 minutes. Oui, Baptiste.
J'ai votre ex-femme en ligne et...
Noyez le poisson.
Comment je fais ?
Débrouillez-vous, Baptiste. C'est pour ça que je vous paye, non ?
On a mélangé les voix, mais d'une manière très très artisanale. C'est-à-dire qu'on, par exemple, la voix de Denis Podalydès, c'est ni ma voix ni la sienne, c'est quelque chose qui est entre. Et ils ont mélangé syllabe par syllabe, donc ça fait un rendu très très réaliste. Il y a quelque chose de très organique.
Bonsoir Nathalie.
Ça me fait drôle de t'entendre prononcer mon prénom.
Méfiez-vous d'elle. C'est un crotal.
Allô ?
Je suis désolé, mais ça ne va plus être possible.
Comment ça ?
Salif Cissé, le répondeur est adapté d'un roman. Dans le roman, Baptiste, votre personnage est blanc. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si la couleur de peau est importante, mais est-ce que ça vous a posé question ?
Il y a peu de noirs qui s'appellent Baptiste. On parlait de cette question avec Fabienne. Moi, je disais, mais peut-être.
Fabienne Godet, la réalisatrice.
Godet, la réalisatrice du film. Je lui disais, peut-être que c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il y a des Congolais qui s'appellent Jean-Baptiste. Et elle me disait, non, c'est Baptiste. Et en fait, pour elle, c'était pas une question. Elle voulait avoir la meilleure personne, selon elle, pour jouer ce rôle-là. Elle a considéré que c'était moi. J'en suis honoré. Mais la couleur de ma peau, pour une fois, et en vrai j'ai eu de la chance dans ma carrière quand même, mais ça n'a pas joué. C'est assez rare, moi quand j'étais jeune et que je regardais le cinéma, j'allais voir des films, j'avais pas ces représentations-là, des personnes afrodescendantes par exemple, qui jouaient des rôles, juste par exemple un avocat, c'est un avocat, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont d'origine chinoise, on s'en fiche. J'ai toujours voulu avoir ça, et ce que j'ai eu de la chance, et en même temps je me dis que c'est pas une raison pour complètement m'effacer. C'est-à-dire qu'on peut jouer les personnages colorblind, mais on peut ne pas avoir à renier ses origines non plus. C'est juste qu'elles ne comptent pas pour l'histoire. Et des fois, il y a des choses qui arrivent à des gens. C'est un peu ça, les histoires qu'on écrit. Et leur couleur de peau ne rentre pas en question. Donc je pense que c'est encore plus réaliste, justement.
Salif Cissé, merci.
Merci à vous.
Salif Cissé à l'affiche du film Le Répondeur, il répondait à Sophie Torlotin. Dans quelques minutes, un nouveau journal sur RFI, l'essentiel de l'actualité internationale. Et puis, vous le savez, à midi et demi, temps universel, c'est l'actualité africaine. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner.
Et vous nous parlerez tout à l'heure
de l'attaque menée hier à Tombouctou par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. On a des détails aujourd'hui. Le camp militaire, l'aéroport et plusieurs postes de contrôle ont été visés de manière simultanée. Et puis au Niger, cela fait 6 mois aujourd'hui qu'une grande figure de la société civile connue pour sa liberté de ton est en détention, Moussa Tchangari, inculpé un mois après son arrestation pour association de malfaiteurs, atteinte à la défense nationale et complot contre l'autorité de l'État. Depuis, il n'a toujours pas été auditionné.
À tout à l'heure, Nicolas, sur les attaques du JNIM au Mali, mais aussi au Niger et au Burkina Faso. On en parlera également avec notre invité dans une vingtaine de minutes maintenant. Mais pour l'heure, un peu de musique. Watson du groupe Trio, c'est à découvrir en ce moment dans la playlist RFI.
Pirate des mers, insoumis volontaires, la peinture des corsaires sur tes navires en guerre, du noir sur le bleu, de la houle et du feu. Paul Watson, ton drapeau, la colère dans tes yeux. Au prix de ta vie, tu es l'homme, c'est assez. Sont assez d'ennemis pour te faire chavirer. Mais il est des hommes que personne n'arrête. À la barre, Paul Watson parcourt la planète. Watson navigue dans le bleu loin des terres. Où le chant des baleines résonne, Watson. Ce que les hommes font à la mer, Watson. Ne veut plus les laisser faire.
Sillonner l'Antarctique, défier le Japon, tirer les Féroé de leur vieille tradition. La crosse du berger, le trident de Neptune, l'espoir du sous un rayon de lune. Se dire que les hommes ne possèdent pas la terre, en chaque espèce en somme l'humanité entière. Les larmes du dauphin, le chant de la baleine,
le mépris des humains, des massacres à la chaîne. Watson navigue dans le bleu loin des terres.
Technologie, le plus grand événement start-up et tech en Europe, revient du 11 au 14 juin à Paris, porte de Versailles. C'est le lieu où les discussions se concrétisent, les opportunités business se créent et les partenariats prennent vie. Viva Technologie, vibrez au rythme de l'innovation. Plus d'informations sur vivatech.com. En partenariat avec France Média Monde.